tout son être. Ses larmes accumulées depuis le matin débordèrent. Rosanette s'en aperçut. « Ah, tu pleures comme moi. Tu as du chagrin. »« Oui, oui, j'en ai. » Il la serra contre son cœur et tous deux sanglotaient en se tenant embrassés. Madame d'Ambreuse aussi pleurait, couchée sur son lit à plat ventre, la tête dans ses mains. Olympe Regimbard, étant venue le soir lui essayer sa première robe de couleur, avait compté la visite de Frédéric, et même qu'il tenait tout près 12 000 francs destinés à M. Arnoux. Ainsi, cet argent, son argent à elle, était pour empêcher le départ de l'autre pour se conserver une maîtresse. Elle eut d'abord un accès de rage, et elle avait résolu de le chasser comme un laquais. Des larmes abondantes la calmèrent. Il valait mieux tout renfermer, ne rien dire. Frédéric, le lendemain, rapporta les 12 000 francs. Elle le pria de les garder en cas de besoin pour son ami, et elle l'interrogea beaucoup sur ce monsieur. Qui donc l'avait poussé à un tel abus de confiance? Une femme, sans doute. Les femmes vous entraînent à tous les crimes. Ce ton de persiflage décontenança Frédéric. Il éprouvait un grand remords de sa calomnie. Ce qui le rassurait, c'est que Madame d'Ambreuse ne pouvait connaître la vérité. Elle y mit de l'entêtement cependant, car le surlendemain, elle s'informa encore de son petit camarade, puis d'un autre, de Deslauriers. « Est-ce un homme sûr et intelligent ?» Frédéric le vanta. « Priez-le de passer à la maison un de ces matins. Je désirais le consulter pour une affaire. » Elle avait trouvé un rouleau de paperasse contenant des billets d'Arnoux parfaitement protestés et sur lesquels Madame Arnoux avait mis sa signature. C'était pour cela que Frédéric était venu une fois chez M. d'Ambreuse pendant son déjeuner. Et bien que le capitaliste n'eût pas voulu en poursuivre le recouvrement, il avait fait prononcer par le tribunal de commerce non seulement la condamnation d'Arnoux, mais celle de sa femme, qu'il ignorait, son mari n'ayant pas jugé convenable de l'en avertir. C'était une arme, cela. Madame d'Ambreuse n'en doutait pas, mais son notaire lui conseillerait peut-être l'abstention. Elle lui préférait quelqu'un d'obscur. Et elle s'était rappelé ce grand diable, à mine impudente, qui lui avait offert ses services. Frédéric fit naïvement sa commission. L'avocat fut enchanté d'être mis en rapport avec une si grande dame. Il accourut. Elle le prévint que la succession appartenait à sa nièce, motif de plus pour liquider ses créances qu'elle rembourserait, tenant à accabler les époux Martinon des meilleurs procédés. Deslauriers comprit qu'il y avait là-dessous un mystère. Il y rêvait en considérant les billets. Le nom de Madame Arnoux, tracé par elle-même, lui remit devant les yeux toute sa personne et l'outrage qu'il en avait reçu. Puisque la vengeance s'offrait, pourquoi ne pas la saisir? Il conseilla donc à Madame d'Ambreuse de faire vendre aux enchères les créances désespérées qui dépendaient de la succession. Un homme de paille les rachèterait en sous-main et exercerait les poursuites. Il se chargeait de fournir cet homme-là. Vers la fin du mois de novembre, Frédéric, en passant dans la rue de Madame Arnoux, leva les yeux vers ses fenêtres et aperçut contre la porte une affiche où il y avait en grosses lettres « Vente d'un riche mobilier » consistant en batterie de cuisine, linge de corps et de table, chemise, dentelle, jupon, pantalon, cachemire français et de l'Inde, piano des rares, deux bahuts de chêne Renaissance, miroir de Venise, poterie de Chine et du Japon. C'est leur mobilier, se dit Frédéric, et le portier confirma ses soupçons. Quant à la personne qui faisait vendre, il l'ignorait. Mais le commissaire-priseur, maître Berthelmot, donnerait peut-être des éclaircissements. L'officier ministériel ne voulut point, tout d'abord, dire quel créancier poursuivait la vente. Frédéric insista. C'était un sieur sénécal, agent d'affaires, et maître Berthelmot poussa même la complaisance jusqu'à prêter son journal des petites affiches. Frédéric, en arrivant chez Rosanette, le jeta sur la table tout ouvert. « Lis donc !»« Eh bien quoi ? » dit-elle, avec une figure tellement placide qu'il en fut révolté. « Ah ! Garde ton innocence. Je ne comprends pas. C'est toi qui fais vendre Madame Arnoux. » Elle lui l'annonce. Où est son nom? Eh, c'est son mobilier. Tu le sais mieux que moi. Qu'est-ce que ça me fait? Dit Rosanette en haussant les épaules. Ce que ça te fait? Mais tu te venges, voilà tout. C'est la suite de tes persécutions. Est-ce que tu ne l'as pas outragée jusqu'à venir chez elle? Toi, une fille de rien, la femme la plus sainte, la plus charmante et la meilleure. Pourquoi t'acharnes-tu à la ruiner ? Tu te trompes, je t'assure. Allons donc, comme si tu n'avais pas mis Sénécal en avant. Quelle bêtise ! Alors, une fureur l'emporta. Tu mens, misérable. Tu es jalouse d'elle. Tu possèdes une condamnation contre son mari. Sénécal s'est déjà mêlé de tes affaires. Il déteste Arnoux. Vos deux haines s'entendent. J'ai vu sa joie quand tu as gagné ton procès pour le Kaolin. Le nieras-tu, celui-là ? Je te donne ma parole. Oh, je la connais, ta parole. Et Frédéric lui rappela ses amants par leur nom, avec des détails circonstanciés. Rosanette, toute pâlissante, se reculait. Cela t'étonne. Tu me croyais aveugle parce que je fermais les yeux. J'en ai assez aujourd'hui. On ne meurt pas pour les trahisons d'une femme de ton espèce. Quand elles deviennent trop monstrueuses, on s'en écarte. Ce serait se dégrader que de les punir. Elle se tordait les bras. Mon Dieu, qu'est-ce donc qui l'a changé ? Pas d'autre que toi-même. Et tout cela pour Madame Arnoux ? S'écria Rosanette en pleurant. Il reprit froidement. Je n'ai jamais aimé qu'elle. À cette insulte, ses larmes s'arrêtèrent. Ça prouve ton bon goût. Une personne d'un âge mûr, le teint couleur de réglisse, la taille épaisse, des yeux grands comme des soupiraux de cave, et vite comme eux, puisque ça te plaît, va la rejoindre. C'est ce que j'attendais, merci. Rosanette demeura immobile, stupéfiée par ses façons extraordinaires. Elle laissa même la porte se refermer. Puis, d'un bond, elle le rattrapa dans l'antichambre et l'entourant de ses bras. « Mais tu es fou, c'est absurde, je t'aime !» Elle le suppliait. « Mon Dieu, au nom de notre petit enfant !»« Avoue que c'est toi qui as fait le coup !» dit Frédéric. Elle protesta encore de son innocence. « Tu ne veux pas avouer ?»« Non. »« Eh bien, adieu, et pour toujours. Écoute-moi. » Frédéric se retourna. « Si tu me connaissais mieux, tu saurais que ma décision est irrévocable. »« Oh, oh, tu me reviendras. Jamais de la vie. » Et il fit claquer la porte violemment. Rosanette écrivit à Deslauriers qu'elle avait besoin de lui, tout de suite. Il arriva, 5 jours après, un soir, et quand elle eut conté sa rupture. « Ce n'est que ça, beau malheur !» Elle avait cru d'abord qu'il pourrait lui ramener Frédéric, mais à présent tout était perdu. Elle avait appris, par son portier, son prochain mariage avec Madame d'Ambreuse. Deslauriers lui fit de la morale, se montra même singulièrement gai, farceur, et comme il était fort tard, demanda la permission de passer la nuit sur un fauteuil. Puis, le lendemain matin, il repartit pour Nogent, en la prévenant qu'il ne savait pas quand